Donc Philippiens 2, versets 5 à 11, page 1333. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Ce texte décrit la trajectoire du Fils de Dieu, son abaissement jusqu'à la croix, puis son élévation ensuite, comme un grand V. Et on va parcourir ce texte en trois temps. D'abord au verset 5, pourquoi ce retour à la croix? Ensuite dans les versets 6 à 8, considérant son abaissement. Dans les versets 9 à 11, considérant son élévation. D'abord, pourquoi ce retour à la croix? Quand j'étais petit, avec mes sœurs, on a répété ces versets des dizaines et des dizaines de fois, sans vraiment que je comprenne l'enjeu de ces versets. Mes parents avaient l'habitude, après le repas du soir, de prendre un texte de la Bible et aussi un temps de prière. Il y avait aussi l'occasion peut-être de chanter un chant, de faire un jeu. Mais il y avait aussi la mémorisation de versets. Et c'est certain, ils ont dû nous expliquer le contexte de ces versets, l'enjeu de ces versets. Mais je devais être distrait ailleurs. Vous savez combien de temps il m'a fallu pour comprendre l'enjeu de ces versets ? Sans mentir, je pense que c'est une trentaine d'années. Et si ce soir, la plupart d'entre vous avaient déjà compris l'enjeu de ce texte, il y en a peut-être certains qui vont gagner un peu de temps, si vous ne l'avez pas encore saisi. Quel est l'enjeu de ce texte? Est-ce que l'apôtre Paul l'insère dans sa lettre comme une occasion de nous pousser à la louange, à la reconnaissance, à l'adoration? Est-ce que c'est l'enjeu de ce texte? Et c'est ce que je pensais. Ou alors, est-ce que l'apôtre Paul se dit, on oublie si facilement l'Évangile? À un moment ou à un autre, il va falloir que je revienne là-dessus. Ici, au milieu de la lettre, c'est le bon endroit. Probablement pas. Et en fait, non, il y a un indice interne au verset 5. Hein. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. L'enjeu, c'est l'attitude. Hein. Manière de parler à la fois de la pensée et du comportement des croyants. Et au-delà de cet indice interne, il y a un indice qu'on a vu dimanche dernier que Matthieu a relevé. Au verset 27, il est question aussi d'attitude, de comportement. Verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile. » L'enjeu, c'est d'avoir une conduite digne de l'évangile. Et plus précisément, de tenir ferme dans un même esprit, de combattre d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. C'est ça l'enjeu. On pourrait même dire, non seulement de ce texte, mais de la lettre, d'avoir des Philippiens qui ne se divisent pas au détriment de l'Évangile. Et là, peut-être vous vous dites, division. Si vous êtes là depuis le début de la série, vous avez entendu dire que l'apôtre Paul a beaucoup d'affection pour cette église. Il peut dire au chapitre 1 qu'il est dans la joie pour la part qu'ils prennent dans l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Pourquoi parler de division? Au début à la fin, c'est l'écho d'un formidable partenariat dans l'annonce de l'évangile. Pourquoi parler de division? C'est un peu comme si vous aviez passé une journée à replâtrer un mur, à le repeindre. Pour vous, tout est lisse, tout est brillant, tout est parfait, jusqu'à ce qu'un professionnel du bâtiment vienne chez vous et remarque une petite fissure, une toute petite fissure, mais qui va probablement s'élargir. Au chapitre 2, la fissure est toute petite, quelques mots. Faites tout sans murmure ni contestation, presque insignifiant. Au chapitre 4, pourtant, la fissure est bien visible. Fait rare dans ses lettres, l'apôtre Paul s'adresse à deux personnes dans l'assemblée directement et les exhorte à vivre en plein accord dans le Seigneur, elles qui ont combattu pour l'évangile avec lui. Dans cette lettre pleine d'affection, un des grands enjeux, c'est l'unité dans le combat pour l'évangile. Unité de cœur, unité d'esprit. Quelle est l'attitude qui menace cette unité ? Eh bien, on voit au verset 3 et 4 qui précèdent un esprit de rivalité, recherche d'une gloire personnelle, une considération pour ses intérêts plutôt que pour ceux des autres. C'est ça qui menace l'unité. Et pourquoi est-ce que ces attitudes sont une véritable menace ? Eh bien, parce que nous sommes dans un combat. C'est l'image que l'apôtre Paul utilise dans ces versets qui précèdent et à d'autres endroits dans sa lettre. C'est intéressant de penser à l'image du combat. Pourquoi est-ce que la ville de Philippe était connue à l'époque ? Philippe était connue pour avoir été le théâtre d'une des plus grandes batailles de l'armée romaine. En 42 avant Jésus-Christ, après la mort de Jules César, dans une guerre civile, on va voir s'affronter deux parties de l'armée romaine. À leur tête, d'un côté Brutus et de l'autre Antoine. On estime à 200 000 le nombre de soldats qui ont été engagés dans cette bataille qui a été particulièrement sanglante. Antoine et ses troupes vont remporter cette bataille. Et à partir de ce moment-là, Philippe devient une colonie romaine, là où des vétérans de l'armée romaine vont vivre leur retraite. Est-ce que Paul a à l'esprit l'avancée de ses troupes l'une contre l'autre quand il écrit ces lignes ? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il a en tête cette formation de la tortue pour laquelle les Romains étaient connus ? Peut-être, peut-être pas. Mais ce serait une bonne illustration de l'enjeu dont il parle ici. La formation de la tortue, ce sont des soldats qui se mettent épaule contre épaule, en formation serrée et qui vont avoir des boucliers vers le haut, vers l'avant. Quel est l'avantage ? Eh bien, l'avantage, c'est d'être protégé de flèches et d'autres projectiles. Vous le savez, sauf d'Astérix et Obélix. Mais quel est l'inconvénient ? L'inconvénient, eh bien, c'est ça ralentit la marche. Et il faut une grande cohésion entre les soldats pour pouvoir tenir, maintenir cette formation. Dans le combat pour l'Évangile, il y a une menace qui guette, celle d'être divisé. Pourquoi ? Parce qu'on aura nos intérêts personnels qui prennent le dessus. Notre désir de gloire vaine qui prendra le dessus. Un peu comme un soldat qui perdrait l'équilibre et qui menacerait l'ensemble du groupe. Pareil dans l'Église, pareil dans les Églises. Et si c'est vrai pour les Philippiens, ces croyants engagés, pour qui l'apôtre Paul a beaucoup d'affection, pourquoi ce ne serait pas vrai pour notre époque ? Le problème avec les intérêts personnels, le désir, la recherche de gloire personnelle, c'est que ça nous poursuit. Ça nous poursuit. Qu'est-ce qui se passe quand des pasteurs de deux églises se rencontrent ? Ce n'est pas une blague, hein. Quand deux pasteurs d'église se rencontrent, est-ce qu'ils vont, en se rencontrant, s'encourager mutuellement, être à l'écoute l'un de l'autre et passer un temps dans la prière, se dire comment est-ce qu'on peut combattre ensemble pour l'Évangile, collaborer ensemble ? Est-ce que c'est ça qui va se faire à chaque fois ? Alors, parfois, ce sera le cas. Mais je vais vous dire ce qui se passe dans la tête d'un pasteur comme moi. Facilement, on rentre dans une sorte de bataille de chiffres où on essaie de présenter l'Église qui a le plus de personnes qui participent le dimanche. On essaie de justifier son ministère, de dire tout ce qu'on fait dans une semaine. Quand on n'a pas un regard condescendant vis-à-vis de ce collègue, la recherche d'une vaine gloire d'intérêt personnel, ça nous poursuit, ça nous colle à la peau. Et pour aller à l'encontre de cette menace dans le combat pour l'Évangile, il faut rien de moins qu'un retour à la croix, considérant son abaissement, c'est les versets 6 à 8. Quand on regarde les versets 6 à 11, on est frappé par l'aspect travaillé du texte de l'apôtre Paul. D'une part, il y a ces parallèles dans les mots et les expressions entre les versets qui précèdent et ces versets que nous avons lus. Mais l'aspect travaillé se retrouve aussi dans ces versets eux-mêmes. Vous l'avez peut-être remarqué à la lecture, il y a des symétries, il y a un balancement rythmique, au point où certains y ont vu un hymne, un cantique que l'apôtre Paul reprendrait ici pour l'insérer dans sa lettre. Possible que ce soit un cantique existant, possible aussi que l'apôtre Paul lui-même l'ait composé. En tout cas, on a affaire à un texte travaillé. Et comme si ça ne suffisait pas, l'apôtre Paul remet une couche à partir du verset 19 en parlant de Timothée et d'Épaphrodite qui sont des modèles en la matière. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'apôtre Paul frappe fort avec ce texte. Quand il s'agit de contrer une attitude de cœur et d'esprit qui nous poursuit l'intérêt personnel, la recherche de gloire personnelle, l'apôtre Paul sait qu'il faut employer les gros moyens. Comment s'y prend-il ? Eh bien, il commence en parlant du Fils préexistant, qui est de condition divine. Il affirme ensuite que Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais s'est dépouillé. En d'autres mots, il ne s'est pas agrippé, accroché à sa condition divine. Et en l'écoutant, on peut penser à ses présidents sur différents continents qui précisément s'agrippe, s'accroche au pouvoir, même si c'est au détriment des droits de la nation. C'était le droit du Fils de Dieu, c'était son droit de s'attacher à son statut divin. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un serviteur, d'un esclave. Le terme « dépouillé » a fait polémique. Est-ce que ça signifie que le Fils a renoncé à sa divinité ? Est-ce que ça signifie qu'il a perdu ses attributs en devenant humain ? Est-ce que ça signifie qu'il a échangé sa divinité avec son humanité ? Les spécialistes de ce passage relèvent que l'expression « dépouillé » ne nous parle pas de ce qu'il aurait perdu, mais elle met l'accent plutôt sur ce qu'il a revêtu, une nouvelle condition. Le Fils de Dieu s'est dépouillé pour revêtir la condition d'un esclave, d'un serviteur. Et les verbes de la phrase vont dans le même sens. Ils indiquent que le Fils de Dieu était préexistant, il a toujours existé, Fils éternel, Fils de Dieu, qui a ensuite pris la condition humaine. Autrement dit, le Fils a toujours existé en tant que Dieu, mais il a accepté en tant que Dieu de revêtir une deuxième nature, la nature humaine. Et c'est d'ailleurs l'affirmation de tous les autres auteurs du Nouveau Testament. Et pour l'illustrer, on pourrait penser à ce moment au dernier repas que Jésus prend avec ses disciples avant la crucifixion. Ses disciples savent qu'il est le maître, et pourtant qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un linge, de l'eau, et alors qu'il est le maître, il va prendre la position d'un esclave au point de laver les pieds de ses disciples. En Jésus, on rencontre le Fils de Dieu qui s'est fait esclave. Mais la descente continue. Plus bas encore que le lavement des pieds, Jésus va connaître l'humiliation de la croix. Au fil du temps, on s'est habitué à entendre ce mot « croix ». On a peut-être même des colliers, des représentations de croix ici et là. Il est difficile d'imaginer le choc, le scandale que représentait ce mot-là pour des gens qui vivaient là à Philippe. À Philippe, avec un grand nombre de citoyens romains dans la ville, tout le monde sait que la croix est un scandale. Qu'un citoyen romain soit crucifié, c'était impensable. La crucifixion, elle était réservée aux plus vils, les esclaves et révolutionnaires. Mais Jésus s'est pourtant abaissé jusque-là, jusque-là. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour nous servir, pour nous justifier devant Dieu, comme on l'a entendu tout à l'heure. Il l'a fait non pour sa gloire, mais pour la gloire de Dieu. Il l'a fait non pour ses intérêts, mais pour notre intérêt. Et si c'est là la trajectoire du Fils de Dieu, ses motivations, quelle est notre trajectoire? Quelles sont nos motivations? Ceux qui étaient là jeudi à l'étude sur l'épître de Jacques ont certainement apprécié les parallèles que Paul a fait entre Genèse 3 et l'épître de Jacques. On est entré dans le mécanisme de la tentation en voyant des parallèles entre Adam et nous. Et s'il y a des lignes parallèles entre Adam et nous dans la tentation, les lignes entre Adam et Jésus sont complètement croisées ici. La Genèse présente Adam comme étant formé à partir de la poussière. Il est peu de choses au départ, mais Dieu lui accorde le privilège d'être son image, à la différence du reste de la création. Le psaume 8, verset 6, dit qu'il a été fait de peu inférieur à Dieu. Et dans sa généalogie, Luc présente Adam comme fils de Dieu. Autrement dit, il monte. C'est ce rang-là que Dieu lui donne. Mais le fait qu'il soit appelé image, qu'il soit sa représentation, devrait lui rappeler constamment qu'il n'est effectivement que l'image de Dieu. Il n'est pas Dieu lui-même, il est la créature qui fait référence au Créateur. Mais est-ce qu'Adam et Ève se sont satisfaits de cette trajectoire? Se sont satisfaits de ce statut? Ils ont été séduits par cette fausse promesse de Satan. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et alors que le Fils de Dieu, lui, ne s'est pas saisi du droit qui était le sien, les humains, eux, ont voulu saisir ce qui n'était pas à eux, le fait de devenir Dieu. Qu'est-ce que fait l'apôtre Paul avec cet hymne, ce cantique? Eh bien, il met devant nos yeux deux trajectoires qui se croisent. Alors que le Fils de Dieu s'est abaissé, nous sommes désespérément en train de vouloir nous élever. Alors que le Fils de Dieu est descendu, nous sommes constamment en train de vouloir monter. Qu'est-ce que ce croisement de trajectoire devrait provoquer en nous comme réaction? Imaginez la scène, vous êtes dans une rencontre de travail, vous avez tous vos collègues autour de la table, et chacun, dans l'atmosphère, dans l'ambiance de la réunion, chacun estime qu'il voit juste, chacun estime qu'il a la solution, chacun estime qu'il est le plus compétent pour en parler. Et l'ambiance est aussi de vouloir rechercher l'estime des autres, le regard approbateur des autres. Et vous suivez le courant, je suis le courant. Dans cette réunion, on est tous en train de penser, j'y vois clair, j'ai la solution, je suis compétent pour en parler. J'aimerais qu'on me reconnaisse, qu'on m'estime pour qui je suis. Mais il y a une seule personne qui n'a pas encore parlé autour de la table. C'est précisément la personne la plus compétente, la plus sage, la plus intelligente. Et quand elle prend la parole, cette personne, plutôt que de se mettre en avant, plutôt que d'affirmer qu'elle voit, qu'elle comprend, qu'elle saisit, elle ne met pas en avant sa supériorité. Au contraire, elle recherche le moyen de servir le groupe. Comment bien faire fonctionner le groupe? Comment permettre à chacun d'utiliser ses compétences? Comment servir le groupe? Est-ce que je peux servir? Est-ce que je peux former? Est-ce que je peux aider? Est-ce que je peux encourager? Quelle serait la réaction du reste du groupe? J'imagine qu'on, si on a un peu de lucidité, on serait frappé, interpellé par la différence d'attitude entre cette personne et le reste du groupe. Qui est plus intelligent que Jésus? Qui est plus sage que Jésus? qui est plus compétent que Jésus, qui est plus glorieux que Jésus. Et pourtant, c'est lui qui a accepté l'abaissement dans l'intérêt des autres, pour la gloire de Dieu. Et le problème ne vient pas du fait d'être compétent ou d'être intelligent, sage, dans tel ou tel domaine. C'est même une très bonne chose. Si on devait rechercher dans l'Assemblée des personnes qui seraient compétentes pour faire telle ou telle tâche, avoir telle ou telle responsabilité pour un week-end d'église ou autre, pour organiser, pour prendre des choses en charge, on espère que quelqu'un aura l'honnêteté de dire « ben oui, je pense que je suis compétent pour faire ce travail ». Vous imaginez si chaque fois, par fausse modestie, on disait « non, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon ». Là-bas, lui, il est bon, lui. En fait, il n'est pas du tout bon, mais on est simplement en train de vouloir dire « non, par fausse modestie, je ne suis pas bon ». L'humilité, elle ne consiste pas à mentir. Elle consiste plutôt à rechercher l'intérêt des autres et la gloire de Dieu. Dans le contexte d'une assemblée, ça signifiera peut-être de dire « oui, je suis compétent pour tel domaine, mais je serais content d'avoir un tel à côté de moi et de voir comment je peux le former, la former, pour que cette personne, elle devienne encore plus compétente que moi dans 6 mois, 1 an, 10 ans. » Parce que l'enjeu, c'est l'unité dans le combat pour l'Évangile. Et en pensant à cette attitude, peut-être que vous êtes un petit peu sceptique à vous dire « d'accord, prendre cette pente-là, je veux bien, mais il y a quand même des moments où trop, c'est trop. Il y a la fameuse goutte qui fait déborder le vase, comme on dit. » Quand on entend, alors qu'on veut servir, mais on entend des paroles qui blessent, ou on n'a pas la reconnaissance qu'on devrait avoir, ce qui est tout à fait légitime, il y a quand même des points de rupture où trop, c'est trop. C'est vrai, on peut servir les autres, encaisser un certain nombre de choses, mais j'ai quand même droit à un peu de reconnaissance, non ? J'ai quand même droit à un peu plus de considération, non ? J'ai quand même droit à une place un peu plus en vue. Je ne peux pas laisser passer ça. Mais là encore, est-ce qu'on va croiser Jésus dans notre trajectoire ? Vous imaginez si Jésus, le Fils de Dieu, à un moment avait connu ce même point de rupture, cette goutte qui fait déborder le vase. Pensez à ces moments où, par exemple, dans le désert, Satan dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Et il le fait avec les 2 autres tentations. Ou alors à ces moments devant la croix où les moqueurs disent, « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Vous imaginez si Jésus dit à ce moment-là, « Trop, c'est trop. » Vous manquez de respect. Moi, je vais vous montrer que je suis le Fils de Dieu. Il suffisait d'un instant, où Jésus dit « trop, c'est trop, je vais vous montrer qui je suis. » Renonce à cela. Et notre salut a été compromis par ce retour à la croix. Paul nous invite à réfléchir comme Jésus, à changer de trajectoire et à suivre Jésus dans son abaissement. Et on termine maintenant avec « considérant son élévation », versets 8 à 11, « considérant son élévation ». Il y a quelques mois, j'ai participé à une conférence pour pasteurs et responsables d'église, et je fais partie d'un comité qui réfléchit au contenu de ces conférences, pas à son organisation. C'est le bon rôle, juste la réflexion, mais pas l'action. Mais en arrivant à la conférence, en consultant le livret qui était proposé à tous les participants, à la fin, on trouvait les personnes qui ont participé justement à la préparation. Il y avait la mention de toutes les autres personnes dans le comité, sauf moi. Et j'étais troublé. J'étais profondément troublé. Pourquoi est-ce que mon nom n'y figurait pas ? Est-ce que c'est pour telle raison ? Est-ce que c'est pour telle raison ? Pourquoi est-ce que mon nom n'y figure pas ? Je pense aux personnes qui sont dans la liste, eux, ils sont dignes d'être mentionnés, mais pas moi, pas moi. Et ça moulinait, ça moulinait. S'avérait que c'était un simple oubli. Mais pourquoi est-ce que ça m'avait troublé comme ça? Pourquoi est-ce que ça avait occupé mon esprit pendant des heures, voire même deux jours? Ben précisément, par intérêt personnel, par recherche d'une vaine gloire, et probablement aussi par insécurité, n'est-ce pas l'insécurité qui suscite les rivalités? N'est-ce pas l'insécurité qui nous pousse à nous comparer les uns aux autres? N'est-ce pas l'insécurité qui nous pousse à vouloir prouver qu'on est le meilleur? N'est-ce pas l'insécurité qui nous fait rechercher l'estime des autres? Par insécurité, on entre dans la comparaison avec les autres. Par insécurité, on estime qu'on n'est pas assez reconnu de la part des autres, pas assez apprécié. Par insécurité, eh bien, on vit dans la crainte de l'avenir, crainte de ce qui pourrait nous arriver. Une insécurité qui nous pousse à la rivalité, la recherche de nos intérêts, la recherche de l'approbation des autres, d'une gloire personnelle. Quelle est la réponse à cette insécurité selon ces versets? L'apôtre Paul ne s'arrête pas avec la croix. Et il poursuit en parlant d'une élévation de Jésus. Verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le « c'est pourquoi » montre qu'il y a un lien entre l'abaissement de Jésus et son élévation. C'est parce qu'il s'est abaissé que le Christ a été élevé à la plus haute place. On note qu'il est reconnu comme Seigneur. Sa divinité est pleinement établie, manifeste. Il lui est donné ce nom, et probablement c'est le nom Seigneur justement, au-dessus de tout nom, face à lui, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qui plie le genou? Même un César devra plier le genou. C'est la réponse à nos craintes. Qui est-ce qu'on va craindre? Qu'est-ce qu'on va craindre? Craindre l'avenir? Mais c'est lui qui est souverain sur l'avenir. C'est lui qui règne en Seigneur sur l'histoire. On est face à un Seigneur qui n'est pas simplement responsable d'un empire, c'est le Seigneur de l'univers. Tout lui est soumis, il règne en Seigneur sur l'univers. Pourquoi rechercher l'estime des autres? Pourquoi cette insécurité par rapport au regard des autres? Le seul regard qui compte vraiment, c'est le sien. Le seul nom qui compte vraiment, le seul nom qu'on doit invoquer, c'est le sien. Le seul nom qu'on devrait avoir au bout des lèvres, c'est le sien. Il est celui qui s'est donné pour nous et qui nous a justifiés, qui a justifié notre vie devant le Père. C'est son regard à lui qui compte. Pourquoi cette inquiétude de ne pas être reconnu? Pourquoi cette insécurité? Jésus est la démonstration d'une promesse qu'il a faite à ses disciples. Quiconque s'abaisse sera élevé. Est-ce qu'on la croit, cette promesse? Quiconque s'abaisse sera élevé. Mais Jésus est la démonstration que cette promesse est vraie. Il s'est abaissé, il a été élevé. Et ça signifie que chaque fois que nous suivons Jésus dans son abaissement, on peut avoir confiance, parce que lui l'a expérimenté avant nous, qu'il nous élèvera en temps voulu. Pourquoi ce retour à la croix? Parce que l'enjeu, c'est l'unité dans le combat pour l'Évangile. Alors que ma tendance est de rechercher mes propres intérêts, ma gloire personnelle, je veux considérer son abaissement, suivre sa trajectoire. Alors que j'agis par insécurité, je veux considérer son élévation, le reconnaître comme Seigneur. Amen.